Bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Galère sur le 88.4. Et c'est l'émission La Courte Échelle qui commence, une émission qui est là pour parler de prison, de garde à vue, de centre de rétention, d'hôpital, de tous les lieux d'enfermement où on peut se retrouver contre notre volonté. C'est tous les dimanches sur Radio Galère à partir de 19h30. 88.4, je le répète. Ce soir, il n'y aura pas d'appel en direct, mais vous pouvez nous écrire. Vous pouvez nous écrire à Radio Galère, Friche de la Belle de Mai, 12 rue François Simon, 13003, Marseille. Et on a aussi un mail qui est la-courte-échelle@riseup.net. RISEUP.net. Il n'y aura pas d'appel en direct parce que ce soir, je suis tout seul dans les studios. C'est Greg. Tout le monde est parti en vacances. Et voilà. Et du coup, je suis tout seul dans les studios. Et je vais à peine vous raconter ce qui s'est passé par rapport au tribunal administratif de Marseille. Le bâtonnier du tribunal avait été un peu alerté là pour les histoires du suicide qui avait eu au CRA il y a quelques semaines, début juillet. Il y avait un suicide qui a eu lieu, il y a un incendie qui a eu lieu, il y a eu plusieurs mouvements là, fin juin, début juillet. Et ça avait un peu alerté le bâtonnier, qui est allé faire une visite du CRA. Il a le droit de faire ça, il est rentré dans le CRA. Et il a fait un rapport complètement acclamant sur la situation là-bas, des lieux en tout cas. Et il a demandé il a fait une requête de fermeture temporaire. C'est-à-dire il a demandé à ce que le centre soit fermé, le temps que des travaux soient faits. Et vendredi, le tribunal administratif a rejeté cette requête. Donc tout va bien, le CRA est toujours là, les gens sont toujours à l'intérieur, il fait toujours aussi chaud. Soi-disant, la clim a été réparée, mais on doute que ce soit le cas dans tout le CRA. Je ne vais pas trop vous parler de ça, mais par contre, vu que tout le monde est parti en vacances, ben nous aussi, on va un peu partir en vacances. Et on va se retrouver à Moscou le 28 novembre 2010. À 14h45, dans un café, dans le centre commercial Ougoubolki. Je parviens à peine à garder les yeux ouverts après cette nuit blanche. La foule passe, la vanité, des visages tendus. Un passant sur deux me semble être un flic en civil. Ces trois-là, en blouson noir par exemple, avec leur visage grave et sérieux. Dima est assis face à moi. On rit de notre parano. Hier soir, Buratino nous a filé un rendez-vous dans un lieu sûr. Buratino, c'est une balance. On va voir que c'est une balance. On ne voulait pas accepter l'invitation. On sait qu'il est suspect. Mais cette rencontre était indispensable. Dima est nerveux. D'après le plan, il doit observer la rencontre aux jumelles. Et depuis le début, il s'oppose à ça. Bien sûr qu'il a raison. Le lieu, comme le plan, aurait dû être mieux pensé. Mais après 3 mois de cavale, ça émousse un peu la perception du danger. Et puis on ne veut pas croire que lui aussi nous a trahis. Je dois donc me débrouiller pour repérer les agents pendant le rendez-vous et m'enfuir en les gazant à la lacrymo si nécessaire. Il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Il est temps d'y aller. On sort du centre commercial. 4 ombres me tombent dessus et m'empoignent par les bras. Mais je ne suis pas surpris, pas un seul de mes muscles n'a tremblé. Dima fait un bond sur le côté et s'est enfui. Un passant lui a fait un croche-patte, mais heureusement ça ne l'a pas arrêté. C'est un pays de maîtres, un pays d'esclaves. Un des men in black me rassure. On aide vos forces spéciales. Ouais, c'est vos forces spéciales, pas les nôtres. Cliquetis de menottes et on me pousse dans la voiture. On me fouille, un téléphone portable, un portefeuille, un lecteur MP3. 1h30 avant le rendez-vous, j'avais allumé le téléphone duquel j'ai appelé Buratino. Je pensais que dans la foule, il n'arriverait pas à le repérer et n'essaierait même pas de le localiser. Mais c'est une erreur stupide. On me couvre les yeux et je passe d'une voiture à une autre. Les Men in Black, les serviteurs du FSB, qui est l'ancêtre du FSB, c'est le KGB, c'est un peu les services intérieurs à Moscou. Donc les Men in Black, serviteurs du FSB, ne se parlent pas entre eux. Ils s'écrivent des textos sur un téléphone qu'ils se passent les uns les autres. Quelques pauses pour pisser, je vois un champ, une forêt, j'ai la vague impression d'être en train de rêver. On arrive à la frontière biélorusse. On me plaque au sol. Ça signifie que l'opération est illégale. Ils me remettent aux mains des agents biélorusses dans une camionnette. Et les Russes disent « Ne nous demandez plus de faire ce genre de merde. C'est clair qu'on vous doit une faveur, les gars », répondent les agents biélorusses. La voiture s'éloigne et ils entament la discussion par des menaces. Tu sais ce qu'il faut que tu nous dises, n'est-ce pas? Ou bien on va devoir s'arrêter quelque part pour t'expliquer? Ouais, ouais, c'est bon, j'ai capté. C'est bien ça. N'interroge pas ta mémoire, ne regrette rien, compte les secondes, calme-toi. Il faut mobiliser ton attention, te concentrer sur une seule vérité. 1. N'aie pas confiance. 2. N'aie pas peur. 3. Ne demande rien. Il est déjà 20h30. Rentre. Le portail s'ouvre avec un bruit métallique et la voiture entre. Le bonnet est toujours rabattu sur mes yeux. Je suis complètement désorienté. Il me pousse dans une pièce, me jette sur une chaise et ma tête heurte une table et le tranchant d'une main tombe sur ma nuque. C'est la plus longue nuit de ma vie qui commence. Ils ne s'attendaient pas à ce que je résiste et ils hésitent un moment. Ça me redonne un peu confiance. Puis ils recommencent. On sait tout, parle, à vous. Mais je sais pas, j'étais pas là, j'en sais rien. Tout le monde t'a balancé, pourquoi nier? Moi, une seule question me torture. C'est est-ce que Dima a réussi à s'enfuir? Ou est-ce qu'ils l'ont attrapé? Comment je peux le savoir? Je tente une question. Et Dima, alors, il vous a donné des preuves? Quel Dima? Tu veux dire Dubowski? Ah, je vois, ils l'ont pas chopé. Tout ne va pas si mal. Quelles sont les infos sur Internet? Personne n'a été enlevé? Oh, c'est du mauvais boulot. On n'était pas prêts. Nous, on était prêts. La porte s'ouvre et quelqu'un dit « Il a raison, c'est déjà sur le site web. » Il y a un silence gêné qui s'installe. Il semble que c'est offensant pour eux d'admettre qu'ils n'ont pas réussi à nous choper tous les deux. Tous les enquêteurs ont quitté la pièce. Ils étaient 3 ou 4. Ça m'enlève un poids. Dima est libre, il a gardé son sang-froid et Buratino, le traître, est complètement démasqué. Maintenant, je dois passer l'interrogatoire. Lors d'un atelier sur les droits de l'homme, il y a une chose que j'ai apprise et dont il ne faut jamais démordre. Pas d'aveu, aucun aveu. Généralement, tout le dossier n'est basé que sur les dépositions faites durant les premiers jours de l'interrogatoire. Donc ce texte, c'est un morceau d'autobiographie de Igor Alinevitch, qui est biélorusse. Et dans les années 2009-2010, il a participé, pendant qu'il y avait une grosse répression contre les anarchistes en Russie, lui a participé à des actions de solidarité en Biélorussie, à Minsk, la capitale biélorusse, en solidarité avec les anarchistes russes contre l'ambassade de Russie. Donc des actions en solidarité. Et suite à ça, de quelques différentes actions, il est parti en cavale, parce que comme on dit en russe, le jopagarit, ça veut dire on a le cul qui chauffe un peu. Donc il est parti de Minsk, il est passé sous les radars, et quelques mois après, il s'est fait kidnapper à Moscou, et on l'a remis à la frontière biélorusse. C'est l'épisode qu'on vient d'écouter, où il raconte comment il était en cavale en Russie, à Moscou, et comment il se fait attraper de manière totalement illégale et ramené en Biélorussie. À partir de là, il est incarcéré d'abord dans une sorte de centre de détention, dans une maison d'arrêt qui est en fait avant son jugement, où pendant quelques mois on va essayer de lui extorquer des aveux. Il est accusé de hooliganisme, c'est quelque chose en Russie qu'on dit, en Russie, en Biélorussie. Quelque chose qu'on... C'est genre une sorte de chef d'inculpation quand on se comporte mal dans la rue, quoi. Hooliganisme. Donc, pendant différentes manifs, il est accusé aussi de l'attaque d'un casino et il est accusé de l'attaque d'une maison d'arrêt aussi. Il a attaqué à coup de cocktail Molotov une maison d'arrêt, si je me souviens bien. Il a été jugé en mai 2011 et il a pris 8 ans dans une prison de haute sécurité. Là, on va écouter 2-3 extraits de son livre qui s'appelle « Sur la route de Magadan » qui a été traduit en France par l'ABC de Dijon, l'anarchiste Black Cross de Dijon. Donc « Sur la route de Magadan » de Igor Alinevitch. Les conditions qu'il avait pendant 8 ans, donc du coup dans la prison de haute sécurité, c'est les conditions, je vous passe tous les détails, mais on peut retenir par exemple qu'il avait un parloir tous les 6 mois qui était autorisé sous bonne conduite, si ce qu'on tenait bien. Il a été libéré en 2015 et il est parti en exil en Europe après ça. Thank you.
вот сижу опять в тюрьме, не светит больше солнце мне. На нарах, бля, на нарах, бля, на нарах. А на свободе фраера гуляют с ночи до утра. И шмары, бля, и шмары, бля, и шмары. Настала лучшая пора, мы закричали, бля, ура! Свобода, бля, свобода, бля, свобода. Один вагон набит битком, а я как курва с котелком. По шпалам, бля, по шпалам, бля, по шпалам. Вот захожу я в магазин, ко мне подходит гражданин. Легавый, бля, легавый, бля, легавый. Он говорит, твою-то мать, попался снова ты опять. Попался, бля, попался, понял, попался. И вот опять передо мной всю ночь маячит часовой. С обрезом, бля, с обрезом, бля, с обрезом. Какой я был тогда дурак, одел ворованный пиджак. Ишкары, бля, ишкары, бля, ишкары. Сижу на нарах, блох ищу, картошку чистить не хочу. Кошмары, бля, кошмары, понял, кошмары.
Yo, c'était Dina Verny qui nous chantait Nana Rar, qui veut dire sur les bancs, sur les bancs, sur les bancs de prison, où elle raconte que, une fois de plus, il vote s'il joue à Piat Sturmie, une fois de plus, je suis en prison, et une fois de plus, le soleil ne chauffera pas ma tête. On continue avec le livre de Igor Reinilevitch, un passage sur le courrier en prison. Il est toujours en centre de détention, en maison d'arrêt, donc avant son jugement. On est toujours en train d'essayer de lui extorquer des aveux. Donc il y a les services secrets ou les services intérieurs biélorusses qui ont plein de manières d'essayer de jouer un peu avec son humeur, ses nerfs, et tout ça pour lui extorquer des aveux. Donc il dit « Nos lettres ont disparu brusquement. En décembre, j'ai réussi à en recevoir une pile entière. Mais depuis janvier, je n'avais presque rien reçu. » Seules les correspondances de certaines personnes me parvenaient, celles de mes parents, de la famille, de quelques amis, et des rares lettres de camarades où il était difficile de trouver quoi que ce soit de politique. Le temps, entre chaque lettre, est passé de quelques jours à un mois, en fonction du comportement et des discussions dans les cellules. En moyenne, les lettres qui étaient postées de Minsk mettaient 2 semaines pour arriver. Les lettres, c'est quelque chose. Elles vous remontent le moral, surtout quand elles décrivent des petites choses de la vie de tous les jours. Mais au travers de la régulation et du filtrage du flot de courrier, les gardes pouvaient insidieusement te tromper sur l'attitude des gens envers toi et sur la réalité du monde. Par exemple, plusieurs personnes, aussi importantes les unes que les autres, pouvaient écrire, mais ils ne laissaient passer les lettres que de l'une d'entre elles. Et ils pouvaient même bloquer cette personne-là. Alors vous commencez à penser qu'on vous oublie et que personne n'a besoin de vous. En plus, ils groupent les lettres contenant des informations négatives, ça c'est dur. Bien sûr, on se répète des milliers de fois que ce n'est pas vrai, qu'il ne faut pas prendre ça au sérieux. Mais inconsciemment, le doute s'insinue. C'est impossible d'échapper. Et ils n'attendent que ça. Dans un contexte de manque d'informations, la sélection d'informations t'influence, que tu le veuilles ou non. Dans cette situation, il est bon de se répéter comme une prière. Un jour viendra et je saurai tout. C'est ce que je faisais chaque jour. Malgré la technologie de filtrage, il leur arrivait de laisser passer certaines choses, 2 ou 3 lettres, non pas parlant de contenu, mais juste parce que je les avais reçues, m'ont renseigné et ont dévoilé toute une série de mensonges de la part des enquêteurs. Ainsi, je connaissais certains aspects de mon dossier et je pouvais compter dessus. De telles informations valaient de l'or. Des nouvelles d'amis que j'ai pu recevoir au début m'ont procuré un soutien supplémentaire. Ah, les amis. Combien d'années de routes communes, de fêtes joyeuses, d'aventures frivoles, de compréhension sincère. Ça, ça semblait éternel. Qui aurait pu penser qu'au lieu d'attaquer un château revêtu de casques et d'armure, ce seraient les confins de la Maison Rouge que vous prendriez d'assaut avec vos lettres de l'extérieur. Chacun des messages que je recevais, avec des mots de soutien, était inestimable. Il stimulait ma mémoire, m'empêchait d'oublier qui j'étais et empêchait les bourreaux de faire de moi une marionnette aveugle et docile. On continue dans le livre avec un passage où Igor Alinevitch est convoqué chez le directeur de la prison qui est surnommé par les détenus l'Amerikanka, la petite Amérique. Être convoqué chez le directeur de l'Amerikanka était une autre histoire. Dans cet asile de fous, seul son bureau était un havre de paix et de tranquillité. En général, il te recevait d'une façon très amicale. Il était capable de te distraire et de t'écouter. Il m'a dit qu'il avait participé à des opérations dans les montagnes, qu'il avait été en prison, en Asie, qu'il ne buvait pas, qu'il ne fumait pas. D'une certaine façon, c'était difficile de croire que c'était lui, l'homme qui nous tormentait, comme un chat joue avec une souris, ou que c'était lui qui organisait toute cette tragicomédie. Il ne faisait pas d'erreurs maladroites comme les simples enquêteurs. Il pouvait te demander ton avis sur un code d'étude de but en blanc. Il pouvait te forcer à penser quelque chose qui ne serait pas ton opinion, en se contentant de te faire rejeter une position encore plus inacceptable. Je me souviens comment il m'a invité à regarder les photos où l'on voyait que Lebiedko n'avait pas tenu sa grève de la faim. Ça s'était raté, car il avait tenté le même truc avec quelqu'un d'autre auparavant. Et l'ordinateur dans ma tête s'était soudain mis à bugger quand il a essayé d'ouvrir les photos. La même chose s'est produite avec moi, alors que je n'étais pas surpris. Après tout, les professionnels font aussi des erreurs. De plus, j'avais vu comment Lebiedko s'était affaibli en quelques jours. Il tremblait, son visage était devenu pâle. Orlov, le directeur, décrivait la situation en prison comme la réponse à une épreuve à laquelle notre pays avait dû faire face. Il comparait l'opposition révolutionnaire français qui avait établi la terreur, et on ne peut pas savoir quelle terreur sera la pire. Je devais rester constamment sur mes gardes, faire attention à chaque mot, suivre les cheminements de pensée, le sien et le mien, et faire attention au dialogue en général. C'était une sacrée épreuve. Il y avait constamment le risque d'exprimer une opinion, un détail qu'il pourrait utiliser pour plus de crédibilité dans sa conversation avec d'autres détenus, et ainsi provoquer le doute et le désaccord. Il était impossible de ne pas lui parler. Maintes fois, je suis entré avec la ferme intention d'orienter la conversation pour me contenter de réponses monosyllabiques. Mais à chaque fois, Orlov arrivait à me faire parler. Tout comme le colonel de la 4e section, il connaissait son boulot, et il le faisait bien. Il y avait un thé superbe servi dans ce bureau, du pain d'épices, du cognac, comme dans les films. Je ne prends pas le thé avec les bourreaux. J'ai répondu ça une fois, et je le répétais à chaque fois que le directeur m'en proposait. Pour une raison inconnue, les gens pensent que ce n'est pas un problème. Comme si on pouvait prendre un thé avec un flic, dans la mesure où il se comporte gentiment et décemment. Alors, si c'est ça, tu valides tous les abus et les déceptions auxquelles les prisonniers sont soumis. En fait, il y a deux sortes de geôliers, les mauvais et les très mauvais. C'est une vérité fondamentale. Toute courtoisie de leur part fait partie intégrante d'une stratégie dont le but est d'instaurer un climat de confiance inconscient. Orlov pratiquait l'adaptation par l'admission du système de valeurs et le mime en copiant tes postures. Hélas, ma connaissance dans ce domaine, la psychologie, est très restreinte et la plus grosse partie du siège psychologique restait invisible pour moi. Je me suis opposé pour me protéger en regardant le directeur avec un demi-sourire. Et je me répétais encore et encore, il m'oppresse, il m'étouffe, il m'humilie et il fit souffrir mes proches. C'est un ennemi et tout ce qu'il dit n'est que mensonge. Un jour, un ami m'a dit que pour séduire une fille, il faut la déshabiller du regard. J'ai adapté cette approche à la situation présente de cette manière. J'imagine comment j'attraperai la gorge du directeur par-dessus le bureau et je l'étranglerai. Il convulse, l'écume aux lèvres, ses yeux se révulsent, il panique en essayant en vain de se dégager de cette poigne de fer. C'était le soutien parfait. Orlov parlait ouvertement des méthodes de torture, de l'aspect moral des dossiers. Il prétendait que son but était de nous faire douter. Il n'a pas répondu à mon objection concernant le fait qu'on n'était pas tous reconnus coupables encore. Pourtant, c'était déjà très clair pour eux qu'une personne est coupable, non pas parce qu'elle a été jugée, mais à partir du moment où elle est suspecte. Après tout, ils ne peuvent pas se tromper, c'est le KGB. On ne peut pas les comparer à des simples mortels. J'ai appris, au cours de ces conversations, qu'ils avaient une approche individuelle de chaque cellule et de chaque individu. Il y avait en tout 18 cellules pour une soixantaine de prisonniers. Ils n'avaient pas besoin de beaucoup d'équipement ni de beaucoup de personnel. Tout était bien planifié, quand, où, combien de fois. Où faire les fouilles, quel individu torturer ou humilier, où laisser les lumières allumées toute la nuit, où interdire de fumer. Ils avaient même planifié qui blesser pendant la sortie aux toilettes ou pendant la promenade. Alors que j'étais dans le bureau, Orlov a appelé les gardes et a donné l'ordre de ne pas toucher Molchanov pendant 2 jours. Pas touché. Évidemment, les cellules étaient mélangées pour rendre la vie plus compliquée ou plus facile. C'est du fascisme classique. Lisez Mussolini et vous allez aimer, je lui dis. Oui, l'image de la civilisation est comme vous le décrivez. Je ne vous contredirai pas, c'est clair avec les loups. Mais qu'est-ce que de simples antilopes sont censés faire dans votre monde avec ces loups sur le dos ?
Together we are strong enough to bring this czar down.
Hey, hey, the Lord Police, the Lord Sanitarius. Passing. Hey, 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 the Lord Police, the Lord Sanitarius. Passing.
Brüder und Schwester, lommen sich nicht irzen. Lommen ich gleich, die jagerlich verkürzen.
Hey, hey, the Lord Police.
Gefühlt, a Wegele mit Mist. Heint ist geworden, a Kapitalist.
Hey, hey, the Lord Police, the Lord Sabotages. Passe. Hey, 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 the Lord Police, the Lord Sabotages. Passe.
Brüder und Schwester, lomme gehen zusammen. Lomme Nikolai Kille bei Graben mit der Mame.
Là, on vient d'écouter une chanson en yiddish mélangée à du russe, qui est une chanson contre la police et contre le tsar Nicolas II. Je vous reparle de Igor Alenevitch là en lisant quelques extraits de son autobiographie qui s'appelle Sur la route de Magadan. On a écouté donc la façon dont il s'est fait attraper à Moscou de façon illégale, amené, kidnappé en fait, et amené à la frontière biélorusse, mis pendant quelques temps dans des geôles, en essayant de lui extorquer des aveux sur des actions qu'il aurait commises pendant quelques mois, les aveux, enfin la prison. Et ensuite, il a été jugé en mai 2011, et condamné à 8 ans dans une prison de sécurité maximum, ça je vous l'ai dit. Libéré en 2015, il est parti en Europe. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début, à l'automne 2020, il y a eu... je ne peux pas répondre au téléphone.
Ouais.
Bon. Timide. Donc en octobre 2020... Lui et trois autres gars, ils se font pécho à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. Ils essayent de rentrer clandestinement en Biélorussie. C'est le moment où il y a un peu des où Loukachenko, on estime qu'il y a beaucoup de soupçons de fraude sur sa réélection, qui est le président biélorusse Loukachenko. Et donc il y a un gros mouvement un peu qui se passe en Biélorussie, et eux ils essayent de re-rentrer clandestinement donc dans leur pays. Ils se font attraper, ils sont accusés de terrorisme, ils sont accusés de l'incendie de 4 voitures dans les bureaux du procureur de Minsk, et ils sont accusés aussi de l'incendie d'une branche locale de l'Institut de police scientifique. C'est là où il y a tout le stockage des traces ADN, tout ça. Donc ils ont essayé de mettre le feu à ça. En tout cas, ils sont accusés de ça. Et en décembre 2021, il prend 20 ans de prison. Donc il est encore en prison. C'est quelqu'un à qui vous pouvez écrire. Bien sûr, on ne peut pas envoyer de mandat parce que son régime pénitentiaire l'interdit. Mais vous pouvez trouver plus d'informations sur lui sur le site de l'ABC Belarus, qui est le Anarchist Black Cross. Donc, si vous avez un stylo bientôt dans la main, vous pouvez noter abc-belarus, BABELARUS.org. Et donc, son nom, c'est Ihar Alinevich. Ihar, c'est en biélorusse, donc Ihar. Alinevich, Alinevich. Le nom russe, enfin le nom russifié, c'est Igor, Igor. Alinevich, Alinevich. Donc vous pouvez lui écrire, il y a son adresse sur le site de l'ABC Belarus. Et comme il l'écrivait il y a déjà 10 ans, recevoir des lettres quand on est en prison, ça fait du bien, ça fait très plaisir, et ça fait des petits rayons de soleil. On finit cette émission avec une dernière chanson de Sector Gaza qui s'appelle Chastushki numéro 3. Chastushki numéro 3, c'est Chastushki, c'est une façon de chanter qui se répond, c'est une sorte de truc un peu choral à deux personnes qui se répondent les uns les autres avec plein de jeux de mots, plein d'histoires de bandits, plein d'histoires de prison, mais généralement plutôt joyeux. On vous dit à la semaine prochaine. Normalement, il y a du monde plus la semaine prochaine que moi tout seul. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Je vous souhaite une bonne soirée. On sait qu'il fait chaud au Beaumet, on sait qu'il fait chaud à Luynes. Bon courage à tout le monde. Et à bientôt. On lâche pas, il n'y a pas d'arrangement. Ciao, ciao.